Bonjour, vous êtes sur Fréquence Mistral, c'est l'heure de notre émission quotidienne sur la correspondance de Manosque. Nous retrouvons François Malabave et ses invités pour une heure correspondance. Bonjour François.
Bonjour Amandine, bonjour à tous. Et oui, traditionnellement, pendant les correspondances, c'est une heure sur Fréquence Mistral consacrée à l'écriture et puis à ce beau chambardement qui règne dans Manosque et dans la région concernant les lettres et les auteurs qui sont ici. Et j'ai un grand plaisir aujourd'hui parce que j'ai trois auteurs en plus dont les romans m'ont particulièrement plu. On aura successivement sur notre antenne Abnous Chalmani, Guy Bollet et Catherine Poulain. Et puis un autre événement aussi ce soir, Evelyne Pravidlo nous parlera du live des correspondances et on va démarrer tout de suite, comme chaque jour sur cette antenne, avec le programme du jour justement, c'est le directeur des correspondances Olivier Chaudançon qui nous explique tout cela. On se retrouve tout de suite après en direct pour parler littérature.
Olivier Chaudançon, vendredi 28 septembre.
Oui, une journée chargée. La matinée était consacrée à la jeunesse et aux ados. Il y avait également le traditionnel apéro littéraire. L'après-midi, il va falloir choisir ses préférences. On reçoit évidemment à 14h30 la sieste littéraire. Je ne le mentionne plus, c'est tous les jours, il ne faut pas l'oublier. Mais il y a également Agnès de Sarthe, que l'on va pouvoir entendre sur son nouveau roman à 15h. Et il faudra choisir parce que parlera aussi au même moment Catherine Poulain, auteure de Manosque. Nous l'avions reçue pour son premier livre très marquant, Le Grand Marin. Celui-ci nous change d'horizon, on revient sur Terre, mais on en conserve la force d'écriture et l'âpreté du récit de Catherine Poulain. 15h, Camille de Toledo, qui viendra faire écho à un travail photographique. On est content de pouvoir nouer des liens comme ça entre différentes initiatives de Manosque et des environs. Et puis, à 16h30, on poursuit nos rythmes littéraires. Un écrivain russe ou apparenté, Andrei Kourkov, qui va dialoguer avec son traducteur, Paul Lequen. C'est vrai que cette année, on a voulu mettre un petit peu plus qu'à l'accoutumée l'accent sur l'idée de traduction. Donc ce sera un moment important de savoir comment un écrivain important, Andrei Kourkov, comment l'intervention du traducteur pour ne le faire entendre en français est presque tout aussi importante que l'œuvre originale. En face de cela, toujours à 16h30, trois écrivaines qui vont dialoguer, Émilie Fraîche, Chloé Cormand, Ingrid Taubois, toutes trois autour de leur dernier livre, et puis également dans la petite salle du théâtre, une lecture projection, Marie Dariosek. Ça repose sur un texte qui n'est pas publié. C'est une histoire qui a rapport à son enfance, son adolescence, son père. À l'origine, ça a été une commande pour les rencontres photographiques d'Arles. Je suis au courant puisqu'en fait c'est moi qui ai contacté Marie Dariosek pour cette histoire-là et on s'était dit que si ça se faisait à Arles, ça se ferait à Manosque. Voilà. Donc, il y a ce retour aujourd'hui au lieu d'origine du projet. À 18h, un débat qui devrait être extrêmement riche et nourri, François Bégodeau et Thomas Reverdy. L'un et l'autre ont un livre qui s'intéresse à la question économique et sociale et sociologique. Thomas Reverdy est à Londres et remonte au moment de l'accession au pouvoir de Margaret Thatcher et voit à travers ça une sorte de bascule du monde et une bascule vers la mondialisation dont on ne cesse de parler aujourd'hui. Et François Bégodeau, lui, est en France, plutôt du côté d'Amiens, on va dire, aujourd'hui, et la mondialisation est à l'œuvre et provoque ses effets. Autre débat, échange, à la même heure, 18h, Carole Fives et Maria Pourchet, qui font vivre, elles, deux voix de femmes en prise avec l'enfant, le jeune enfant pour Carole Fives, l'enfant naissant pour Maria Pourchet. À 18h également, un dialogue qui lui aussi est tendu d'une thématique, Bernardo Carvalho, Fanny Taillandier, là on s'intéresse à la violence du monde. Et Fanny Taillandier en particulier a écrit un livre assez fort sur le 11 septembre 2001, New York, avec deux protagonistes directement touchés, l'un dans les tours qui s'effondrent, l'autre occupant une place stratégique dans un aéroport. Et puis un troisième aspect du livre qui est s'intéresser au pilote terroriste. Qui est-il? Il vient d'Égypte, son enfance, son adolescence. Enfin voilà, il y a une partie documentaire, mais c'est absolument passionnant. Et puis d'Isiter toujours, on a décidément beaucoup de choses. La petite salle du théâtre, on a proposé au public de Manosque une séquence qui s'appelle « En l'absence de Mathieu Riboulet ». Mathieu Riboulet nous a quittés, c'est un auteur que nous aimions beaucoup, qui était fréquemment en correspondance et on avait vraiment envie de faire entendre à nouveau sa voix. Donc ses proches et ses amis ont conçu cette lecture musicale. Serge Renko, comédien, compagnon de Mathieu Riboulet, mais aussi Maëlys de Carangal, Gwenaëlle Aubry, Barbara Carlotti, la comédienne Pauline Jambet. Voilà, je crois que ça va être un très beau moment. On poursuit la journée un petit peu plus tard. Alors, une séquence un peu inhabituelle. On est dans la grande salle du théâtre. Il est 19h15. Un écrivain que nous aimons beaucoup et qui nous est fidèle. Et je le souligne parce qu'il se déplace assez peu dans les festivals littéraires. C'est Pascal Quignard qui a accepté de venir faire une lecture de son nouveau texte. Et Pascal Quignard est un pianiste accompli, amateur, mais de haut niveau. Donc ce sera une lecture, mais aussi une lecture avec quelques moments au piano. Ce qui nous amène à la soirée de 21h. Une jeune comédienne qui n'est jamais venue à Manosque, et ça fait plaisir aussi de recevoir de nouveaux talents. Alors quand je dis jeune, elle n'a pas 18 ans non plus, mais voilà, elle est en plein accomplissement de sa carrière. Elle s'appelle Laure Calamy, on la voit beaucoup au cinéma en ce moment, on la voit beaucoup aussi sur la fameuse série 10%. C'est vraiment quelqu'un qui a le sens de la scène, qui est puissante. Et elle viendra lire un roman épistolaire qui s'appelle Le fusil de chasse. Et puis, pour finir cette soirée, joyeusement, à 22h45, et quelques, il nous arrive d'avoir quelques minutes de retard, le bal littéraire, on va dire le bal littéraire des 20 ans des correspondances. Donc, 5 écrivains se réunissent dès jeudi pour écrire une histoire originale. Parmi ces 5 écrivains, les Manosquins en connaissent au moins 2, Sylvain Prudhomme, Alizée Néter, et puis 3 autres qui viennent du théâtre, Emmanuel Destremau, Rémi Devos, Pauline Peyrade. Ils écrivent une histoire par brève séquence de 5 minutes en 5 minutes. La règle, c'est que chaque séquence se termine par le titre d'une chanson très connue. Ils lisent la première séquence, prononcent le titre de la chanson très connue, et hop, un DJ envoie la chanson. Donc nous écoutions, et tout d'un coup, on se met à danser. La chanson s'arrête, on poursuit l'histoire, nouvelle séquence, nouveau titre de chanson, nouvelle danse, et ainsi de suite. Pendant une heure, on écoute, on danse, on écoute, on danse. Et lorsque ça s'achève, et ben là, on est parti pour une soirée de fête et de danse.
Et avant la fête et avant la danse, bien sûr, c'est la radio. Et vous êtes en direct donc sur Fréquence Mistral et on a le plaisir d'accueillir Abnous Chalmani. Bonjour Abnous.
Bonjour.
Vous êtes une jeune auteure d'origine iranienne. Vous avez écrit un livre magnifique qui s'appelle « Les exilés meurent aussi d'amour » qui est paru chez Grasset. Une belle phrase titre qui a le mérite de planter le décor du roman « La mort, l'amour ». Et les exilés. En l'occurrence, une famille iranienne chassée par la révolution islamique des années 80 et réfugiée à Paris probablement en 1984-1985.
Exactement.
Ce n'est pas précisé. Tout le livre est vu à travers les yeux de Shirin, une enfant de 9 ans, puis une adolescente, découvrant l'amour et les turpitudes des siens comme des siennes. Car les femmes ont un rôle principal dans ce livre. L'histoire de cette famille est faite de méchanceté, manigance, jalousie, de non-dit, de frustration, d'amour refoulé et de drame. Drame au rang desquels on trouve des viols et des incestes. Une réalité que découvre progressivement Shirin. À travers une foule de personnages passés et présents, les exilés meurent aussi d'amour, nous entraînent dans une spirale infernale, et le filtre des yeux enfantins nous sensibilise aux questions des racines, mais aussi de la survie. Une saga familiale tout autant qu'un roman. Première question, Abnous Chalmani, avant d'aller plus au fond de l'histoire. Shirin, c'est vous ?
Non, pas exactement, forcément, mais beaucoup de soi, mais c'est vrai que je suis d'accord, totalement d'accord avec Azil Erdogan, l'écrivain turc, quand elle dit qu'un premier roman est toujours la somme des traumas. Donc si les faits ne sont pas directement issus de la réalité, les traumatismes sont effectivement les miens. Mais c'est une fiction et je suis une amoureuse de la littérature et de la fiction. Donc j'ai pris, tous les personnages sont issus de réels et je les ai mélangés, transformés pour en faire des monstres personnages, pour permettre à tout un chacun de pouvoir s'y reconnaître. Et je trouve ça plus facile de se reconnaître dans ces personnages qui sont plus grands que nature que dans des personnages très réalistes où c'est plus difficile, je trouve, en tout cas pour moi en tant que lectrice, de se projeter dedans.
Donc une amplification des traits de chacun.
Exactement, j'ai tout exagéré, je pense que mes personnages n'auraient absolument rien épargné. Quoi. C'est quand même des traîtres, des assassins, des violeurs, des incestueux, mais aussi des gens merveilleux. Donc il y a à peu près les êtres merveilleux et amoureux sont exceptionnels et les traîtres et les assassins sont terrifiants.
Et il y a un personnage qui est entre les deux et qui balade, c'est le petit frère.
Oui, c'est
qui, le tout petit frère. les mots, chaque mot a son importance dans votre livre et puis des mots qui sont à la suite les uns des autres, il faut faire très attention. Attention. Évidemment, la question de votre livre, c'est l'exil. Cette famille iranienne qui a quitté son pays pour vivre à Paris. Et bien sûr, c'est quelque chose aussi que vous avez vécu.
Oui, ça oui, ça l'exil, je pense que l'exil est un événement qui vous marque de toute façon et que tout passe à frais à travers ce filtre de l'exil. C'est toujours plus facile pour une enfant parce qu'à 8 ans, vous n'êtes pas tout à fait fini, donc vous pouvez vous fondre plus facilement. Et c'est effectivement, plus vous êtes âgé, plus c'est difficile. Mais il n'empêche, malgré toute la difficulté que peut représenter l'exil peut aussi être quelque chose de joyeux puisque c'est un événement qui vous permet de vivre d'autres vies que la vôtre. Et je pense que c'est difficile, mais en acceptant d'autres manières de voir, une autre culture, c'est aussi plus de richesse.
Quelques phrases extraites de votre livre, « Les exilés meurent aussi d'amour ». Et on reviendra sur ce sujet, je pense, dans toute notre conversation, puisque c'est le fond de ce livre. « Quand le doute de l'exil vous prend, vous êtes foutu. Peut-être était-ce ce doute manifeste dans l'instabilité des corps qui ne savent plus comment se tenir, ni à Paris, ni dans les conversations, qui hésitent, bifurquent, reprennent sans logique. Peut-être était-ce ce doute qui me fit chanceler dès le premier jour. C'est quelque chose, l'exil, une claque qui vous déstabilise à jamais. C'est l'impossibilité de tenir sur ses deux pieds. Il y en a toujours un qui se dérobe, comme s'il continuait de vivre au rythme du pays perdu. Pays perdu, c'est une expression forte.
Oui, c'est un pays perdu. Enfin, tout dépend. Certains s'exilent et peuvent retourner faire des allers-retours. C'est vrai que mes personnages sont interdits de retour. Et c'est vrai que cette déstabilisation qui est effectivement perturbante, parce que être toute sa vie en déséquilibre, c'est pas très agréable. Mais au final, c'est peut-être ce déséquilibre qui fait que les exilés flottent. Donc, ils sont absolument au-dessus des frontières. Et donc, c'est peut-être ça aussi, la plus grande des libertés, c'est d'être bancal.
Un joli flottement bancal, donc on va retenir
cette expression.
Un exilé
bancal, mais c'est peut-être pour ça qu'il est libre.
Alors, c'est aussi évidemment une plongée dans une famille disparate, avec les parents de Chérine. Il y a aussi Mahmoud, son grand-père, le tout petit frère, j'en ai parlé, personnage étrange, médium et surdoué. Ses tantes et leur conjoint de celui qui fait office de chef de famille. Il est surnommé le Chinois, pendant que son père, à elle, reste effacé et taiseux. Et puis Chérine, qui a eu 9 ans, elle a un poste d'observation étrange, le canapé du salon. Enfin, pas tout à fait le salon, on y reviendra. C'est un poste d'observation très bizarre.
C'est une lucarne, c'est comme un écran de télé ou de cinéma. C'est effectivement, après les fastes de Téhéran, ils se retrouvent à Paris, donc dans 3 appartements de 2 pièces, dans le même immeuble, les uns au-dessus des autres. Elle a pas d'espace à elle a pas de chambre, puisque le salon est au fait un salon, salle à manger, chambre à coucher, bureau, bibliothèque, et elle se réfugie sous le canapé, et à travers cette poste d'observation, elle va redécouvrir sa famille, parce que l'un des effets secondaire de l'exil, c'est le dévoilement. C'est la vérité qui apparaît. Il est impossible d'avoir du recul sur sa famille dans sa vie quotidienne à Téhéran. Tout était réglé, les anniversaires, l'école. Tout d'un coup, dans l'exil, tout est déstabilisé. Donc les gens apparaissent dans leur réalité. C'est comme ça qu'elle va découvrir le vrai visage des gens qui l'entourent. En l'occurrence, ses effroyables tantes qu'elle pensait adorer, mais qui sont des femmes sans cœur et très dures. Son père, qui certes est quelqu'un d'effacé, mais moi j'en ai fait un loser magnifique. Je trouve qu'il y a beaucoup de beau aussi dans l'échec, et la mère qui se laisse humilier et qui en même temps est une magicienne incroyable qui est capable de transformer toute laideur en beauté.
Je note que vous n'avez pas parlé du grand-père, c'est une bonne
chose.
Non,
mais parce que le grand-père,
mais
c'est
attendez,
aussi, c'est
on va
le
y
pire.
Venir. On va y venir. À l'abri, donc, sous son canapé, Chérine assiste, malgré elle, à une scène traumatisante. N'en disons pas plus. La famille croise des personnages attachants, dont une autre famille, les Iranis, plutôt libres et libérés. Ils sont nudistes, dit Chérine, pas naturistes. Hein. Il y a aussi l'oncle Bérouz, révolutionnaire pur jus, Amir qui fait régner la crainte, Omid adulte instruit qui la guide et dont elle est amoureuse, les voisins français, ses flirts auxquels elle donne numéro, numéro 1, numéro 2, numéro 3, etc. Et puis une lumière, une belle personne, Anna, une juive altruiste. On plonge aussi dans l'histoire de la famille et de l'Iran. L'histoire des générations précédentes, des femmes de sa famille, avec des noms magnifiques, la rousse, la sombre, l'ardente, la laide, la mongole, sans oublier sa mère, ses tantes et elle-même. Une somme de frustration et de drames ponctués de viols et surtout d'inceste. Père, mère ou fille, beaucoup tuent l'œil et le désir par des rapports sexuels incestueux. L'inceste, c'est un moteur dans votre roman ?
Je ne sais pas si c'est un moteur, mais comme c'est une famille très refermée sur elle-même et que je voulais, c'était aussi une réflexion effectivement sur la famille, sur ce qu'on transmet malgré soi, sur ce qu'on conserve par peur de ne plus faire partie de la famille. Et je trouve qu'il y a quelque chose dans les familles très fermées, quoi qu'il arrive, de l'ordre de l'inceste. Cette reproduction des drames, cet atavisme familial est quelque chose qui m'a toujours fait peur. Et je trouve que la première des libertés, c'est aussi de savoir se détacher de sa famille, d'autant plus ces familles clans, tribus, qui est extrêmement étouffant. Et en revenant sur le passé de sa famille, à travers les femmes, la sombre, l'ardente, la rousse, c'est aussi une manière de voir que rien ne se perd et tout se transforme dans les familles et qu'il faut bien à un moment une personne qui casse ce cycle. Et en l'occurrence, c'est le tout petit frère qui va casser ce cycle-là. Le tout petit frère qui a été en gestation pendant 13 mois dans le ventre de la mère et qui, pour moi, je l'ai construit ce personnage comme étant sa peau, son sang. Tout dans le petit frère, c'est l'exil. Et du coup, il n'y avait que lui qui pouvait casser ça. Alors effectivement, c'est un petit génie de 11 ans qui empoisonne les membres de sa famille. Donc quelque part, c'est un tueur. Mais j'allais dire, c'est un tueur en toute innocence.
Un justicier quelque
c'est
part.
C'est ça, un justicier, parce qu'elles sont vraiment très méchantes. Mais à travers ça, on a le sentiment qu'il casse cette répétition familiale et en même temps on découvre un monde dans le livre qui ne fait que reproduire ce que faisait une aïeule en utilisant des poisons. Donc même en voulant casser, elle n'y arrive pas et finalement c'est Shirine, l'héroïne, qui va, en partant de cette famille, en la cassant, va réussir à être libre. Et effectivement, Anna, qui est ce personnage qui l'aide, ce qu'elle lui apprend, c'est surtout le rire. C'est, face à tous les drames, faire un pas de côté et essayer de regarder les choses avec un peu d'humour. Ça permet non seulement une respiration, ça permet aussi d'avancer un peu plus légèrement.
Alors évidemment, on apprend beaucoup de choses sur l'histoire, comme la civilisation iranienne dans votre livre, un héritage pesant pour Shirin et les siens. Il y a un basculement à un moment, le passé rejoint le présent. C'est un extrait que je vais lire où Tala, la tante préférée pour l'instant de Shirin, vient faire une révélation. Alors, je vais vous lire cet extrait très particulier, puis on va le commenter ensemble, Abnous, tout à l'heure. Donc, c'est Tala qui arrive. Hein. Même mon père était nerveux. Quatre membres d'une famille dysfonctionnelle attendaient passivement qu'un drame vienne frapper à la porte. Ce fut Tala. Mais Tala, en mode révolutionnaire, entre guillemets, elle n'embrassa personne, refusa le thé, alluma une cigarette et demanda que les enfants sortent. Elle s'adressait à moi, elle n'aurait jamais osé avec le tout petit frère. Je ne bougeais pas, personne d'autre ne me demanda de sortir. Tala me toisa du regard et comme dans un film, je soutins son regard. Le seul mode de communication qu'elle connaissait était le drame. Pour lui parler, il fallait dorénavant prendre la pause. Mes parents attendaient, le tout petit frère semblait savoir de quoi il s'agissait parce qu'il avait la bouche entrouverte sur la première question qu'il poserait à Tala après ce qui se révéla être une déflagration. Nous avons un problème, un vrai problème. Et ce fut heureux qu'elle le précisa au vu du nombre incalculable de problèmes qui n'en étaient pas, mais torturaient les esprits de ma famille. Elle enchaîna avec une intonation joyeuse dans la voix. Le Chinois a reconnu Vaïd. Ma mère faisait un effort pour trouver quelque chose à dire, pour reculer l'instant de la révélation, parce qu'elle aimait vraiment les Iraniens et qu'elle se voyait tout à fait seule, tout à fait abandonnée à elle-même, sans eux, sans les dîners improvisés, sans les promenades avec les enfants, sans tout le nouvel an à préparer, sans le rire de Soela et les visages de l'une de ses jumelles. Il s'est souvenu l'avoir vue à Téhéran. J'ai envie de me lever, de la secouer. Après avoir laissé filer les secondes, après avoir tiré sur sa cigarette en passant sa langue sur ses lèvres, elle ajouta « Vaïd est un agent de la SAVAK. Il était là, à son interrogatoire, il l'a torturé. À ce moment-là du film, les violons se déchaînent dans les aigus et tous les personnages s'immobilisent dans une grimace mêlant la surprise au dégoût. Nous étions une famille faite pour le cinéma. Depuis l'exil, à chaque sonnerie de téléphone, d'interphone, à chaque passage du facteur, arrêt sur image. Comme si depuis l'an 1 de l'exil, nous tenions en équilibre sur un fil, craignant que la plus légère des brises nous fracasse sur le sol. Enfant, je confondais les mots somnambule et funambule, avant de comprendre que ces deux mots décrivaient le plus justement ma famille. Elle marchait sur un fil en dormant. Donc la révélation d'un torsionnaire exilé comme la famille à Paris, et puis bien sûr donc cette famille qui va être secouée par cette révélation, cette déflagration comme vous dites, et l'introduction du cinéma aussi, cinéma qui est un domaine que vous connaissez fort bien.
Oui, c'est vrai que c'est y a que dans l'exil que c'est possible. Une famille s'exile pour fuir un régime, et l'un des suppôts de l'ancien régime s'exile de la même manière. Ça, on a eu il y a pas longtemps cette tragédie où une réfugiée yézidi a croisé dans les rues en Allemagne son tortionnaire. Donc c'est quand même des choses qui arrivent souvent, et c'est vrai qu'elle s'entend très bien avec cette famille qu'ils n'auraient jamais fréquenté en Iran, parce que eux étant de gauche et cette famille, les Iraniens, étaient de droite. Donc c'est quand même l'occasion dans l'exil. Mais là, ils découvrent effectivement que le type est un vaïd, faisait partie de la Sava, qu'il a torturé. Mais c'est ce genre de personnage aussi. À un moment, quelque part, elle le défend en disant, c'est un opportuniste comme les autres. La famille des Iraniens, c'est des survivants. J'essaye de pas porter de jugement de valeur sur mes personnages. C'est pas toujours facile. Mais c'est vrai que, de se retrouver, dans l'exil, on transporte quand même beaucoup de son histoire et de son passé. Et tout d'un coup, d'avoir le passé qui est là, matérialisé sous le visage d'un être que vous fréquentez sans le savoir, c'est absolument terrifiant. Donc, faut quand même vivre avec ça. Et ça, je trouve que cette scène dit effectivement beaucoup de cet état d'attente coincé dans le passé, de ce que peut être l'exil.
Vous parlez de scène, c'est vrai que évidemment c'est du cinéma quelque part, et la deuxième partie de cette intervention sur le cinéma, les violons, etc., c'est évident. L'importance du cinéma, c'est un domaine donc que vous connaissez bien, Abnous Chalmani. Vous citez avec malice par exemple les valseuses, mais aussi Louis Malle, et puis cette citation de Truffaut qui est magnifique: pour connaître les Français, il faut mettre le nez dans leur lit.
C'est vrai.
C'est très, très curieux, mais en même temps...
Mais je crois que pour connaître n'importe qui, il faut mettre le nez dans son lit. Sauf que la réalité, c'est vrai que le personnage d'Omide, qui est un amoureux de sa tante et qui lui fait découvrir l'histoire française, il lui fait découvrir par le trou de la serrure. Et effectivement, je trouve qu'on apprend beaucoup plus de choses en allant vers l'intimité. Et c'est vrai, quand il lui raconte la naissance, j'allais dire, de l'extrême droite, du populisme, en lui parlant de Boulanger et du fait qu'il se soit suicidé, le général Boulanger, sur la tombe de sa mère, maîtresse à Bruxelles, qui s'appelait quand même Madame de Bonnemain. Comment il est possible d'oublier une chose pareille? Donc effectivement, à partir de là, ça enclenche en elle une espèce de passion de l'histoire, parce qu'à chaque fois, il lui raconte l'intimité des personnages historiques en les plaçant sur la grande histoire. Et bien sûr, que peut-être que le général Boulanger, si sa maîtresse ne s'était pas suicidée, il aurait peut-être fait cette révolution-là, et on aurait peut-être eu un régime populiste en France à cette époque-là. Sait-on jamais? C'est le suicide de sa maîtresse. Donc c'est aussi une manière de voir autrement l'histoire et de regarder par le trou de la serrure.
On va laisser la question en suspens, si vous voulez bien. C'est trop compliqué. Par contre, on va revenir à votre style, Abnous Chalmani. Un style où on l'a vu avec le tout petit frère. Il y a une énumération et qui reviendront toujours. On ne parle pas du petit frère, c'est toujours le tout petit frère. Et c'est pareil pour certaines expressions que j'ai choisies qui sont croustillantes. Vous allez nous expliquer, commenter peut-être tout ça. Évidemment, on parle de politique et on parle d'Iran, bien sûr. Et il y a des tirés entre chaque mot. Mais c'est des expressions, je le répète, qui vont revenir régulièrement.
Oui.
Les putains d'enculés de fascistes, par exemple.
Ah oui.
Et puis, les gardiens de la révolution, mon cul, par exemple aussi.
Putain d'enculé de fasciste, c'est quand même, quand on fréquente des gens d'extrême gauche, c'est quand même une expression qui revient très souvent. Je crois que c'est une des premières expressions que j'ai entendues enfant. Et après, en fréquentant des familles françaises de gauche ou d'extrême gauche, c'est quand même une constante. On est en train de débattre, il y en a toujours un qui finit la conversation en disant putain d'enculé de fasciste, c'est vrai. Et comme en plus ils viennent de la révolution islamique ou les gardiens de la morale, c'est comme ça qu'on les appelait, qui venaient et vérifier s'il y avait du vin et vérifier s'il y avait du cochon, enfin tout ça, bah ça devient les gardiens de la morale, mon cul. Et c'est vrai que le fait d'utiliser ces expressions-là, c'est aussi une manière de se décharger un peu de la violence du choc. C'est vrai que ça c'est vraiment quelque chose que j'ai vécu, parce que j'avais 2 ans au moment de la révolution en Iran. C'était tellement tendu, je veux dire, quand quelqu'un sortait de l'appartement, on n'était jamais sûr de le voir revenir vivant. Et effectivement, j'étais toute petite, c'est ma tante ne rentrait pas, bon, elle avait été arrêtée après une manifestation, et ma mère faisait les 100 pas en hurlant c'est gardien de la morale, mon cul, c'est encore eux, c'est le gardien de la morale, mon cul, c'est elle qui a initié cette expression et c'est resté. Donc jusqu'à aujourd'hui encore, c'est quand on demande ce qui se passe en Iran, on dit mais qu'est-ce qu'il nous faut encore, les gardiens de la morale, mon cul.
Et aujourd'hui, on en parle sur une radio locale en France.
Exactement,
c'est parfait.
C'est magique.
C'est parfait. Abnous Chalmani, vous restez avec nous. Bien sûr, vous participez aux correspondances de Manos.
Oui.
Vous avez quelque chose de prévu aujourd'hui ?
Non, c'était hier.
C'était hier.
J'ai un super débat avec Estelle Sarabulle sur l'exil, la famille, ce qui nous reste dans l'exil et ce qui ne reste plus. Donc c'est intéressant, c'était l'exil intérieur, l'exil extérieur. C'était absolument passionnant.
Et c'était sur la place de l'Hôtel de Ville.
Exactement.
À Manos, dans un cadre particulier.
Magique. C'est très beau.
À nos côtés, Evelyne Pravidlo, qui est l'une des orchestratrices particulières des correspondances de Manos. Bonjour Evelyne.
Bonjour.
Ravi de vous recevoir ici même. Pourquoi vous êtes là aujourd'hui ? C'est parce qu'il y a un événement très bientôt, c'est le live. Je crois que c'est ce soir même.
Non, c'est dimanche, c'est la clôture du festival.
Ah.
Justement, nous avons voulu, pour clôturer cette 20e édition anniversaire, faire à nouveau monter les écrivains sur scène. C'est une petite habitude aux correspondances de Manosque. Et là, c'est une revue vivante. Alors, il n'y a pas de paillettes, il n'y a pas de plumes, mais il y a des écrivains qui viennent raconter une histoire vraie, ou pas. Un pianiste qui les accompagne, Arthur H., le chanteur, Clémentine Mélois, la plasticienne, et les écrivains qui sont des fidèles de Manosque, Miguel Bonnefoy, ancien résident, Thomas Clair, Maïlis de Kerangal, Daniela Ferrière et Alice Zéniter, que vous connaissez bien à Fréquence Mistral.
Oui, tout à fait, c'est des personnes qu'on apprécie. Comment est née cette idée du live ?
Alors, l'idée du live, il se fait qu'il y a 4-5 ans, j'ai assisté à Life Magazine à Paris. À l'époque, j'étais programmatrice du Salon du Livre de Paris et je me suis dit, ce serait formidable de faire venir ces écrivains sur scène au Salon du Livre de Paris et de leur faire faire ce Life Magazine. C'était à la fois une bonne idée, sur le principe, une très mauvaise idée dans la réalisation, parce que le Salon du Livre de Paris n'est absolument pas fait pour recevoir ce type de forme artistique. Voilà. Et puis quand on a commencé à réfléchir avec l'équipe de programmation des correspondances, on s'est dit, il nous faut un événement un petit peu exceptionnel à Manosque, quelque chose, un événement inédit, une forme artistique qu'on n'a pas encore présentée au public manosquin. Et là, on s'est dit, le live. Voilà, personne ne l'a vu ici. Et les écrivains ont répondu présent tout de suite, évidemment. Donc, clôture du festival, Théâtre Jean Le Bleu, dimanche 30 septembre, 18h.
Et puis alors, quels écrivains quand même ? Vous avez un académicien qui est là, Daniela Ferrière, et qui est aussi un ami des correspondances.
Et puis le but de le casting, si vous voulez, de ce Life Magazine, c'est qu'il faut choisir... Alors nous, c'était évident que c'était des écrivains, bien entendu, mais faut que ce soit aussi des écrivains qui aiment être sur scène et qui sont capables, comme dit Daniela Ferrière, d'animer une salle.
Donc, pas de problème avec ça. Et d'ailleurs, on retrouve Daniela Ferrière avec Alain Mabankou.
Samedi à 18h, place de l'Hôtel de Ville.
Avec aucun modérateur
pour
les empêcher de se cogner et de s'embrasser. Donc, c'est pas un souci. Ça va être un grand, grand moment. Place de l'Hôtel de Ville, samedi 18h.
Oui, on a samedi 18h pour Alain Mabankou et Daniela Ferrière. Et on a choisi une autre rencontre croisée sans modérateur, c'est un petit peu
des
événements cette année, c'est l'historien Patrick Boucheron et Maïlis de Kerangal le dimanche matin sur la place de l'Hôtel de Ville à 11h.
Là aussi, ce sera magnifique avec deux personnalités. Maïlis de Kerangal qui, lorsqu'elle parle de Manosque, dit quelque chose de magnifique, vous le savez ?
Bah oui, je le sais, parce que c'est à moi qu'elle a, quand je l'ai appelée pour lui proposer de faire une lecture, le Like Magazine, et la rencontre avec Patrick Boucheron, elle m'a dit, mais je peux pas te dire non, Manosque, c'est ma terre natale.
C'est magnifique. Hein.
Donc c'est magnifique.
Et c'est vrai qu'elle est venue plusieurs fois et qu'on la voit toujours avec
grand, nous avons grandi ensemble.
Grand plaisir et c'est une chose qui est superbe. Merci beaucoup Evelyne.
Merci,
et puis
François.
On sait que vous êtes très prise et puis très efficace toujours dans le travail et dans l'organisation. Et en tout cas, vive le live.
Vive le live, vive les correspondances et happy birthday.
Dimanche, oui. Merci Evelyne, à bientôt.
Au revoir.
Retour en plateau sur Fréquence Mistral avec cette émission spéciale sur les correspondances. J'ai le grand plaisir d'accueillir Guy Bollet. Bonjour Guy.
Bonjour.
Je vous ai déjà accueilli l'année dernière, c'est pour parler du Fils du Feu, votre premier roman, Fils du Feu. Et c'est un deuxième roman que vous publiez, Quand Dieu boxait en amateur, qui est publié chez Grasset. Un deuxième roman tout aussi puissant que Fils du Feu, qui nous avait conquis en 2016. On plonge dans l'univers des années 60 dans la région de Besançon, avec des personnages déjà croisés dans le premier livre, mais une histoire différente. Dieu, c'est Dieu le Père, autrement dit René Bollet, qui est né et qui est mort dans le même hôpital après avoir passé une vie humble entre une enfance pauvre, un métier de cheminot et la passion de la forge. L'auteur est fasciné par son père et lui rend un hommage romancé, appuyé. Orphelin de père, sa mère, veuve de cheminot, qui s'est fait écraser, paf, entre deux wagons comme une crêpe le pauvre, c'est une expression qui revient régulièrement, ne connaît que deux saisons austères, l'hiver passé et l'hiver à venir. René, lui, c'est un teigneux, et puis il adore aussi évidemment le dépôt, les cheminots, qui sont pas franchement des privilégiés, d'après ce qu'on lit bien dans votre livre, et d'après la réalité, évidemment. C'est un hommage au père, un parallèle aussi entre la boxe et la forge. On suit donc l'enfance de René, sa complicité avec Pierre, l'ami intime Pierrot, avec qui ils découvrent les livres qui vont les guider dans leur vie. Alexandre Dumas, Jules Verne, Jack London et le Larousse pour l'un, quand l'autre dévore Homère et la Bible. Pierrot sera prêtre, exercera son sacerdoce dans sa paroisse. René, lui, s'adonnera à la boxe où sa mère l'envoie pour ne pas être efféminé, dit-elle. Il aura un bon niveau et sera même champion de France amateur. Il chante aussi des opérettes avec son épouse et écrit même quelques poèmes, tout en travaillant au dépôt et à sa forge. Pierrot, lui, est un prêtre ouvert, il est pour la messe en français, ce qui est déjà révolutionnaire. Il parle sans détour de l'omniprésence du sexe dans la société, et pendant 10 ans, et à la demande de Pierrot, il incarnera Jésus-Christ pendant les scènes de la Passion à Pâques, et sa plastique de sportif, comme sa petite tenue au Golgotha, auront le mérite d'attirer de nombreuses spectatrices, pas forcément grenouilles de bénitier. Il est le James Dean local. Guy Bollet, c'est du vécu tout ça?
Ça dépend, je vais répondre comme nous, que la part de réalité. Enfin, c'est comme les t-shirts, 70% laine, 30% acrylique, c'est un petit peu ça, quoi. Donc là, c'est difficile de donner la part d'authenticité. Enfin, puis qu'est-ce que c'est que la réalité? Alors, je vais reciter cette phrase de Montaigne que j'adore, pas pour faire le malin, mais Montaigne disait, faute de mémoire, je m'en forge de papier. Vous voyez, en plus il y a la forge là-dedans.
C'est pas mal, oui. Voilà. Et il y a le papier.
Ce qui fait que avec l'écriture, on va recréer une réalité sans doute beaucoup plus proche de la réalité qu'on pense réelle. Et cette réalité, grâce à la puissance des mots, va devenir beaucoup plus, en fin de compte, intérieure, authentique, avec un tas de mensonges autour. Mais c'est pas du mensonge, c'est du roman. On peut pas, la réalité est pas intéressante du tout pour dessous dans le domaine romanesque. Sinon, c'est du récit, c'est de l'essai. Le roman doit prendre des chemins de traverse tout le temps et sublimer ces petits moments de réalité. Sinon, on n'est pas écrivain, on est raconteur. Enfin, je sais pas ce qu'on est, mais je crois beaucoup à la... Moi, ce sont les mots qui me guident, hein, c'est pas tellement l'idée. Je me sens pas du tout une âme de romancier, je me sens pas capable de créer des personnages. Je me sens pas... C'est absolument impossible pour moi de commencer un roman. Déjà, de commencer un roman en me disant que je vais faire un roman, j'arrive pas. Je commence à écrire. Après, ce que ça donne, ça change. Ça peut être une nouvelle, ça peut être un poème, ça peut être un roman. Pour de bon, je sais jamais à l'avance. J'ai lu l'autre jour que Simenon, le créateur de Maigret, commençait ses romans sans aucune idée. Et ça peut paraître un peu aberrant, parce que c'est quand même une énigme, des personnages, un meurtre et tout ça. Et lui, il disait, moi, je commence, je m'assieds, j'écris une phrase, et voilà, je tire dessus, et ça vient ou ça vient pas. Et j'écris pareil, sans me prendre pour Simenon, bien sûr.
Et il n'y a pas Maigret chez vous ?
Il n'y a pas Maigret
chez moi. Il y a Dieu le Père.
Il y a Dieu le Père, c'est mon père, oui, c'est un bel hommage à mon père. Et c'est pas un roman que je voulais vraiment écrire, enfin, je voulais pas tellement... Moi, j'avais pas d'idée de roman quand j'ai commencé celui-ci, c'était... Pour expliquer la naissance de ce roman, pendant une vingtaine d'années, j'ai travaillé sur un roman qui racontait justement l'histoire de mes parents qui montaient des opérettes dans la cuisine chez nous, dans le quartier des Chaprais à Besançon, un quartier très populaire, ouvrier.
Ce qu'on voit très bien dans Fils du Feu, d'ailleurs.
Voilà, c'est ça, dans Fils du Feu, on décrit bien le quartier des cheminots, tous ces prolos, quoi.
Et ces soirées opérettes.
Voilà, et des soirées opérettes, mes parents montaient des opérettes dans la cuisine avec un tourne-disque, voilà, moi j'étais gamin, on a choisi les plages dans les disques noirs, vous voyez, plage 3 de Chanteur de Mexico, prendre le TA2, pousser la balancelle, l'escarpolette, tout ça, enfin, tous les duos d'opérettes. Les plus connus, ils chantaient ça, ils avaient de très belles voix tous les deux. Ils chantaient pour un public, une dizaine de personnes, puis à la fin, on buvait une cochonnerie du genre Clairette de Die, vous voyez, les champagnes des pauvres, là, et voilà quoi. C'était bien sympathique. Et pendant 20 ans, j'ai fait à peu près une version, un roman par an de cette histoire d'opérette. Je voulais absolument décrire ce moment, rien d'autre ne m'intéressait. Et j'y arrivais pas parce que j'étais justement dans la réalité, je collais au réel. Avec le roman, on n'a rien à faire avec le réel. Et j'ai fait 20 versions qui étaient nulles. Puis au bout d'un moment, j'en ai eu un petit peu marre quand même d'y passer 20 ans sur le même bouquin. Mais en fin de compte, j'apprenais à écrire. J'apprenais à travailler mon style à travers ces 20 versions différentes. Et au bout d'un moment, le personnage c'est même pas le père, c'est la mort du petit frère qui est ressorti.
Alors voilà, c'est la bascule du livre justement.
Oui.
Le petit frère qui a à peine quelques jours,
oui.
qui meurt, et puis tout d'un coup, évidemment, le père va arrêter. Il va arrêter ses séances paroissiales suite à la mort en bas âge de son fils. Dieu l'a abandonné, dit-il.
Oui.
Ce sont les dernières paroles du Christ, d'ailleurs. Hein.
Oui.
Et sa femme, elle, devient folle de chagrin. Et lui-même se replie sur lui-même. La vie, ça, s'est arrêtée, s'est brisée, ce moment-là.
Il se replie sur lui et dans l'alcool.
En plus.
Oui, en plus dans l'alcool. Et c'est ce petit frère qui est arrivé dans Fils du Feu, dans le premier roman. Je ne m'y attendais pas du tout. Et c'est lui qui a déclenché un petit peu tout ça. Parce que dans toutes les versions de l'opérette, il n'y avait ni la forge, ni les cheminots, ni la mort du petit frère. Enfin, il n'y avait rien de tout ce qui a fait les éléments des premiers et seconds romans. Et maintenant, je m'en étonne. Je me dis, c'est quand même bizarre que j'ai bossé 20 ans sans parler de la forge, sans parler même de mon père, enfin de tout ça. C'était uniquement, je voulais raconter l'opérette. Je m'étais focalisé là-dessus. Je voulais pas en démordre. On a un peu têtu les franc-comtois, nous. Je m'étais dit, je vais aller au bout de ça. Je suis allé au bout de 20 ans d'errance d'écriture, mais avec bonheur, parce que ça a permis d'ouvrir la porte à ces deux livres-là qui ont été édités chez Grasset, ce qui est quand même une bonne nouvelle pour quelqu'un qui écrit pendant 20 ans en étant refusé de partout, quoi. Voyez.
Et c'est une bonne chose aussi pour les lecteurs de pouvoir partager ces univers très particuliers avec votre style très, très particulier. On voit le narrateur aussi qui est présent dans ce livre de manière assez prenante, parce qu'à un moment aussi il y a une autre bascule, c'est mai 68. Alors là c'est la situation nationale qui intervient. Il y a un vent de liberté, et puis le fils de René qui lui chipe la photo de la fête, vous vous rendez compte, pour dénoncer la mainmise de l'Église sur le peuple. Le père en est bouleversé avant que naisse le remords du rejeton. C'est du vécu là aussi un petit peu.
Bien sûr, pour tout. Enfin, je pense que. Enfin, je ne peux pas dire, pas parler au nom des autres. Tous ceux qui ont eu comme moi 16 ans en mai 68 se sont mis tout d'un coup avec un gros tractopelle à renverser toutes les valeurs de nos parents, de nos grands-parents, enfin de toute la société. C'est un peu écroulé avec cette espèce de fête permanente et de merde à tous. En gros, c'était ça, quoi. On disait merde à tous, à toute forme d'autorité. Donc la paternelle qui était en tête de gondole, quoi, bien évidemment, quoi. Donc c'est le père qui a pris en premier. Et maintenant, je me dis que moi, j'aurais surtout pas aimé être père en mai 68 avec des ados, parce que c'était épouvantable la manière dont on a bousculé tout leur petit monde un petit peu, qui venait pas forcément de la France de Pétain, mais qui avait des racines dans travail, famille, patrie, qui était quand même bien stabilisé sur un ordre moral qui était contestable, qui a été contesté d'ailleurs par tous les révolutionnaires de 68. Et nous, on a balayé tout ça avec une violence terrible. Je me suis rendu compte après de la violence avec laquelle on a bousculé nos parents et comme on les a maltraités. tout de même, on les a quand même maltraités, quoi.
Ouais. Alors, vous parlez aussi beaucoup de vous dans cette deuxième partie du roman, hein, plus particulièrement. Vous évoquez votre vie, alors pas besoin d'aller, si vous pouvez le faire, aller sur Wikipédia, voir tout ce qu'a fait Guy Bollet dans sa vie. On va pas développer, mais il a eu pas mal d'activités. Et vous évoquez vos rencontres, vos fuites, vos naufrages. Vous évoquez vos maîtresses aussi, l'alcool, l'insouciance, mais avec un regard tendre sur le passé. Ça, c'est bien. Et puis, une scène extraordinaire, ce fameux combat le 1er octobre 1975, Mohamed Ali contre Joe Frazier, un événement majeur qui a été vu en duo entre le père et le fils. Ils sont tellement heureux et qu'ils en cassent les accoudoirs de leur fauteuil et qu'il rêvera même d'avoir un fils noir à l'image de Mohamed Ali. C'est magnifique, c'est une belle image. Et puis, il y a cette expression qui revient et cette définition du père. Qui est magnifique aussi. Le père, roi sur un ring, Jésus sur une scène, Zeus dans la forge.
Oui.
On a la trilogie là.
On ne peut pas mieux faire.
Ouais, c'est vrai, c'est vrai.
On ne peut pas faire une statue qui soit plus jolie. Ouais.
Il y a aussi une scène émouvante, Guy, dans votre livre, c'est un mois avant la mort, avant sa mort du père, il va trier les objets de sa vie et vous les triez avec lui. Il va choisir une enclumette, une petite enclume, et puis le charbon, le coq. Dont il se badigeonne le corps et il va mourir un petit peu après, effondré, épuisé dans sa chambre d'hôpital. Un moment très émouvant, très particulier. Guy, je peux vous demander de choisir un extrait de votre livre pour qu'on voit un petit peu votre manière d'écrire et puis en même temps qu'on juge un peu de la fluidité de votre texte et de la puissance de votre écriture.
J'espère que j'ai choisi le bon passage, que j'ai pris un petit peu au hasard là tout de suite, il y a deux secondes. Mais voilà. Chapitre 6. Pour ceux qui s'intéressent au chapitre, hein, c'est le 6. Voilà. Pendant que mon père boxait, forgeait, martelait acier et cartilage, balustre et maxillaire, recopiait sur son petit carnet des mots aussi vastes que les cinq continents, rondache ou sélénieux, carto ou xiphoïde, Pierrot, donc Pierrot c'est son combat d'enfance qui viendra à B, après avoir découvert le théâtre lors de camps de vacances, rencontra Dieu comme on rencontre une femme. Émotion, éblouissement, tachycardie, coup de foudre auréolé, émerveillement, tremblement, approches incertaines, balbutiements, encouragement, fréquentation, annonciation, génuflexion et demande en mariage. Il nomma cela la vocation. Il entra donc au séminaire, aux petits, puis aux grands, passa des examens qui lui donnaient le droit de pouvoir épouser Dieu, fut ordonné à la cathédrale Saint-Jean, René en fut témoin, puis partit faire ses classes et son apprentissage en d'autres évêchés, dans les bourgs et bourgades de la France dite profonde, veillant, bénissant, enterrant ouailles en peine, baptisant ouailles nouvelles. Puis revint tranquillement, après un long voyage, dans son propre pays. Le voici désormais prêtre à l'église Saint-Martin des Chaprais, et tout le monde ne l'appelle plus que par son nom officiel d'église, de soutane, de catéchisme, d'hostie, d'eau bénite et de confessionnal, l'abbé Delvaux. René affirme que c'est la faute à toutes ses lectures s'il est entré dans les ordres, la faute à ses mini-dieux en jupette qui lui ont tourné la tête, la faute à l'Odyssée, à l'Iliade, puis enfin à la Bible. Il a bien vu au cours de leur enfance et de leur adolescence ses passions se métamorphoser et glisser progressivement d'Ulysse à Oedipe, d'Oedipe au Sphinx, du Sphinx à Osiris, d'Osiris à Hérode, d'Hérode à Jésus et de Jésus à Dieu. Peut-être dans un autre ordre ou un autre désordre. Toujours est-il que le voici prêtre, en soutane, on dit également en robe, c'est-à-dire, si l'on traduit en langage mythologique, en jupette, ne valant pas plus cher que ces petits dieux grecs et retournant, malgré lui, sans même qu'il s'en rende compte, à la case départ. À la seule différence que cette fois-ci, malgré l'amas des ans qui aurait dû le mûrir et dessiller ses yeux, il prend très au sérieux le successeur de Zeus et adore un veau d'or qui se nomme Yahvé.
Un extrait du livre de Guy Bollet, Quand Dieu boxait en amateur, paru chez Grasset. Guy, vous allez être sur le grill à Manosque pendant les correspondances.
Sur le grill, oui.
Oui. Vous savez quand et où?
Oui, bien sûr. Bien sûr, je sais par cœur. Je prends même pas de petits trucs pour m'en rappeler. Donc c'est samedi à 16h30. Samedi à 16h30, je ne sais pas où, quelque part, avec Christophe Boltanski.
Ce sera une belle rencontre de toute façon.
Voilà.
Et comme vous connaissez bien Manosque, maintenant ça fait quand même deux fois que vous venez.
Oui.
C'est un bonheur pour nous de vous recevoir. Pour conclure, moi je vais vous dire quand même deux petites phrases que j'ai repérées dans votre livre. Par exemple, une belle citation. On ne peut tout de même pas toujours se crucifier pour prouver à autrui qu'on l'aime encore bien plus que notre propre vie. Laissons ça au Messie, c'est un peu leur métier. Ça, j'ai trouvé ça, il y a beaucoup d'humour là-dedans. Et puis, il y en a une autre aussi qui m'a beaucoup plu pour un boxeur notamment. La douleur, c'est comme la révolution, il faut que ça s'arrête à l'heure des repas, sinon ça ne ressemble plus à rien. C'est un extrait et des réflexions de Guy Bollet qui était mon invité. Merci beaucoup Guy et bonne correspondance
merci,
à vous-même.
Merci,
à bientôt.
Merci, à bientôt.
Retour en plateau sur Fréquence Mistral et c'est avec grand plaisir que je reçois Catherine Poulain. Bonjour Catherine.
Bonjour.
Catherine Poulain qui a écrit Le Cœur Blanc qui va paraître à l'Olivier. Je crois que la parution c'est la semaine prochaine, mais en tout cas il est déjà lu et en production ici à Manosque dans le cadre des correspondances de Manosque. Le Cœur Blanc, eh bien c'est un roman qui est une confirmation révélée l'année dernière grâce à un magnifique grand marin qui a raflé plusieurs prix littéraires. Catherine Poulain publie donc ces jours-ci son deuxième roman, Le Cœur Blanc, aux éditions de l'Olivier, et nous plonge non pas dans l'Atlantique pour pêcher le flétan en Alaska, mais dans un milieu insoupçonnable et si proche de nous, celui des travailleurs saisonniers. Et l'histoire se déroule au fil des saisons et des récoltes. Asperges, melons, fraises, tilleuls, abricots, olives, ce sont des esclaves modernes qui engraissent des patrons d'un autre temps, mais leur vie se déroule aussi dans des bars où ils ont leurs habitudes. Ils s'y retrouvent et boivent sans compter. Dès le début, on pressent un malheur, un cataclysme, une épée de Damoclès sur leur tête, et à la tête de chaque personnage d'ailleurs, car leur univers c'est galère, travail, alcool, drogue et sexe. Les frustrations sont nombreuses et variées, elles seront destructrices. Pas d'histoire sans personnages et ceux de Catherine Poulain sont attachants et entiers. Personnage principal, Rosalind, Rosa, une Allemande aux cheveux roux qui fait tourner les têtes et les cœurs. Elle est le personnage central mais avec un double pourtant très différent, Mounia. La Teutonne et l'Orientale se complètent bien, sont même complices. Autour d'elle, leurs compagnons de soirée, de beuverie, de défonce ou de sexe. Sur la fin du livre, un incendie ravage le secteur et menace les populations. Le feu purificateur en clôture d'une histoire âpre, violente, faite de misère et de désespérance. Catherine Poulain, doit-on rappeler que vous avez travaillé, et vous travaillez toujours peut-être, dans les champs et la montagne. Vous avez été ouvrière agricole. Cette histoire s'inspire-t-elle de votre vie ?
Alors, après le succès du Grand Marin, on a commencé à me poser la question, est-ce que vous êtes l'un des personnages, est-ce que c'est autobiographique? Alors, j'ai été saisonnière pendant des années, c'est une vie que j'ai adorée. Mais j'ai connu aussi donc des situations un peu extrêmes, j'ai connu le froid, l'hiver, la violence du soleil. J'ai connu certaines scènes de grand racisme dans certaines campagnes. Et je me suis dit un jour, il faudrait que j'en parle. Mais détaché de moi. Il faut que je parle de ces personnages, il faut que je parle de ce... Je voulais l'écrire il y a très 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 longtemps, déjà. Lorsque j'étais saisonnière, je me suis dit un jour, il faudrait que tu parles de tout ça. Et puis, une autre idée m'est venue en tête, je me suis dit, mais pas seulement, il faut parler d'un embrasement de tout ça. Parce qu'on est parfois dans des tels états d'épuisement et des tels états d'énervement ou d'excitation. Je me suis souvent dit, et si tout s'embrasait? Et si ça ne s'arrêtait pas? Il faut imaginer un feu qui va gagner chaque personnage. Et un feu extérieur qui va aussi ronger les terres.
Alors, je ne vais pas vous l'apprendre, Catherine Poulain. Le cœur blanc est moins exotique pour nous que l'histoire du grand marin. On a quitté l'Alaska pour se retrouver en Haute-Provence. On connaît bien. L'histoire est aussi plus statique, mais il y a toujours l'observation réaliste, la noirceur des destins, la violence des confrontations et cette écriture dynamique ou dynamite, comme vous voulez. C'est votre marque de fabrique, ça ?
Oh, je ne sais pas.
Ah, moi, je vous le dis. Je vous le dis. Il y a une écriture qui est quand même très puissante et en même temps des scènes qui sont des scènes à la fois cinématographiques et en même temps très intérieures chez les personnages. Par exemple, dans votre livre, lorsque des malfrats que l'on connaît bien se sont introduits dans la caravane où vit Rosalind et qu'elle va retrouver 2-3 traces de leur passage. Ils ont cassé aussi une bulle particulière qui représentait le fameux cœur pur, cœur blanc. Et donc là, on sent qu'il y a la menace qui se précise. C'est écrit de manière très, très forte.
Oui, oui, oui. J'ai eu peur d'avoir fait des longueurs avec ce premier long hiver de Rosalind, mais je me suis dit, il va être très très important, puisque là tout va être c'est un peu le germe de tout. Et c'est, en fait, le roman se passe sur il y a 10 ans d'écart entre les premières scènes et l'été. Cet été très violent et un peu meurtrier quand même.
Avec aussi le rythme des saisons qui apparaît au fur et à mesure, les gens se retrouvent. Alors il y a les Portos, les Portugais, évidemment, oui. Et puis toute une équipe qui se retrouve chaque fois avec parfois des junkies, avec parfois des personnages. Ah ben lui, il n'est plus là parce que on ne sait pas ce qu'il est devenu. Ben on imagine, puisque le pauvre, il était sous domination de particulièrement de la drogue, par exemple. L'alcool qui joue aussi un rôle très important. Après le travail, on va oublier tout ça avec de l'alcool, et puis les rapports humains aussi qui sont très difficiles. J'ai choisi un extrait, Catherine, si vous permettez, de votre livre, qui est un extrait où on sent très bien, et c'est justement Rosalind qui est en train de discuter avec un de ses amants, Acacio, qui est d'origine portugais, et donc ils discutent entre eux. C'est tout simple, vous allez voir, et c'est Rosalind qui parle. Tu sais ce qu'on est pour eux ? On est les abricots du rebut, les vilains petits fruits tout piqués, tavelés, tordus, les invendables qu'on balance dans le cajot pour la pulpe. J'ai pensé à ça un jour, je calibrais, il faisait chaud, les cigales gueulaient, la poussière me collait à la peau, les triple A, tu sais, leur renflement velouté et leur fente douce, je les rangeais avec précaution dans les cagettes de pain blond sur des papiers de soie. Tout ça m'a traversé comme une vérité, alors que je lançais un fruit difforme dans la caisse à mes pieds. C'était moi que je jetais. C'était nous. Nous qui finirions dans des cabanons pourris, qui mourions dans les feux de l'été ou la solitude de l'hiver, dans le travail et dans l'alcool. Ceux dont on ne veut pas dans les douches du camping, des fois qu'on contaminerait le site ou que ça fasse trop mauvais effet pour les touristes, que l'on envoie au lavoir crade avec les boîtes de néocodion défoncées, les canettes vides et les bouteilles de Marnia Village éclatées. C'est vrai qu'ils peuvent nous traiter de drogués et d'alcoolos, les gens du village, quand on voit comment il y en a qui laissent le lavoir. Oh, je sais plus, tiens, qui a tort, qui a raison. Et est-ce que ce n'est pas juste un malentendu ? En attendant, on est le rebut. « Dis pas ça, ils disent, doucement. Ne dis plus jamais ça, si tu veux. »
Oui, j'ai voulu, c'était très très important de dire que c'était peut-être un malentendu, parce que ce n'est absolument pas une critique contre les agriculteurs. J'essaie de présenter les agriculteurs. Alors, il y a certains patrons dans les premières scènes qui sont immondes.
Ce sont des esclavagistes.
Voilà, oui. Mais les seconds font ce qu'ils peuvent. Alors certains, il y en a qui sont même...
très humains.
Très humains. Ils font vraiment ce qu'ils peuvent. Oui. Et aussi, ils sont pris à la gorge. Et puis, il y a ce grand antagonisme entre les gens du village. Les gens, c'est leur terre, ils ont leurs racines là, ils ont leur travail qui est dur, mais qui demande tout... auquel ils doivent... Comment dire ? C'est toute l'année qu'ils sont dessus. Et il y a ces saisonniers qui arrivent, qui déboulent, qui viennent de nulle part, qui eux n'ont plus de racines. Et qui s'en fichent, qui s'en contrefichent. Et lorsqu'on trouve des seringues dans le bac à sable des enfants, c'est normal que les gens du pays soient un peu... Mais c'était très intéressant de parler quand même de cette... Ben de cette
c'est une vie particulière.
De cette espèce de désespoir chez certains, oui. chez certains saisonniers, ou de ce manque de combat, ce manque de... Ils ne se projettent dans rien, à part la prochaine saison. Et donc l'alcool, la drogue... Mais c'est aussi, c'est un roman. Hein. Et la campagne, j'ai voulu inventer une campagne, en fait. Bon, évidemment, il y a du tilleul, il y a des olives, il y a des cigales, mais j'ai vraiment inventé une géographie pour essayer de...
Les cigales ne chantent pas chez vous. Comme tout à l'heure, je l'ai dit, elles gueulent.
Oui, elles gueulent.
Elles gueulent, elles
gueulent ou elles braillent.
Voilà.
Ou
elles, ouais. Et c'est...
C'est le son de l'enfer, peut-être.
Ça peut se comprendre aussi, c'est vrai. Donc c'est un beau livre qui va sortir ces jours-ci, Le cœur blanc, publié à l'Olivier. Catherine, c'est votre deuxième participation aux correspondances de Manosque. C'est une ville que vous connaissez bien. Vous avez parcouru beaucoup de chemins et de kilomètres depuis un an.
Oui, oui.
Comment vous vivez cette période particulière?
J'ai été très déroutée au début. Et je savais qu'il fallait écrire ce deuxième livre, parce qu'autrement, je n'y arriverais peut-être plus. Donc j'étais assez tétanisée, dirons-nous. Peur d'avoir perdu une spontanéité, peur de n'être plus libre de mes... Et j'ai réussi à le faire et je suis contente. C'était un immense soulagement de me dire j'y suis arrivée, maintenant c'est la porte ouverte pour un futur.
Vous avez un petit peu d'anxiété sur la réception du public par rapport au cœur blanc?
Un peu, parce que j'ai l'impression d'avoir été méchante. Je veux dire, c'est un livre qui se finit très très mal, il y a beaucoup de violence. Mais après le succès du Grand Marin, je me suis dit qu'il fallait absolument que je casse une image. C'était un enjeu. Hein. J'ai dit, tu vas leur en donner. Tu vas en mettre vraiment de l'alcool, de la drogue, du désespoir et de la violence. Parce que ça existe aussi. Parce que c'est là, parce qu'on est témoin de certaines choses parfois et qu'il faut les dire.
Et que c'est insoupçonnable, comme je le disais au début, sur le milieu des saisonniers, on pense que c'est des gens qui viennent, qui travaillent et qui repartent après dans leur pays. Non, ça n'est pas si simple. C'est beaucoup plus compliqué que ça. Et ce livre a le mérite de décrire, même si c'est un peu exagéré ou un peu... caricaturé, ça a le mérite de déclarer des choses, et c'est aussi un bel hymne quelque part à la Haute-Provence et à cette nature généreuse qui peut nous nourrir comme qui peut nous détruire par l'importance du feu. Catherine, vous êtes sur scène sur la place de l'Hôtel de Ville, je crois, tout à l'heure à 15h.
Je ne crois pas que ce soit la place de l'Hôtel de Ville. Je crois que c'est la place un peu plus haut.
Donc ce serait plutôt Marcel Pagnol.
Marcel Pagnol, je crois, ouais. C'est pas les marchands, non.
Je vérifie tout de suite, je vais vous dire ça. Exact, c'est bien la place Marcel Pagnol à 15h pour parler de votre livre en public. C'est un exercice qui vous plaît, ça, aux correspondances, d'être en confrontation avec des gens et avec un journaliste qui vous pose des questions parfois tirées par les cheveux?
Oh, je suis toujours un peu... J'ai le trac, mais je me dis, je commence quand même à... Une fois qu'on est lancé, c'est... C'est intéressant,
ça va, ça se passe très bien. Ça se passe bien. Je vais poser la même question à Abdous Chalmani. Hier, vous avez vécu ce grand moment sur la place de l'Hôtel de Ville, qu'est-ce que vous en ressortez?
Ah non, moi j'aime beaucoup parce qu'on passe beaucoup de temps. Enfin, moi j'écris beaucoup enfermé. Après, j'aime beaucoup la solitude. Je pense que c'est pour ça que j'écris. Et c'est vrai qu'on écrit avec le ventre. Après, on corrige avec la tête, avec son éditeur. Et enfin, pour moi, le moment où c'est l'émotion, le cœur qui intervient, c'est le moment de la rencontre avec le public. Donc c'est toujours extrêmement touchant. Et c'est toujours déjà qu'on s'intéresse à notre travail, qu'on nous pose des questions. Je trouve ça formidable. Mais ça fait du bien puisque après, on va partir en grand enfermement pour écrire les suivants, donc ça crée un certain équilibre. Moi, je trouve ça très agréable.
Et vous êtes donc réceptif de ce moment particulier.
Totalement.
Guy Mollet, vous avez la même impression?
Non.
Non.
Non. Déjà, je serai demain à place de l'Hôtel de Ville. Je viens de regarder sur le petit programme à 16h30 avec Christian Boltanski. Non, moi j'ai fait du spectacle. Enfin, j'ai été un petit peu saisonnier comme vous dans différents métiers de ma vie. J'ai voyagé partout dans le monde et je me suis arrêté pour écrire, en me disant je reste chez moi dans mon village, je ne veux plus en bouger. Et je fais beaucoup de sorties, mais c'est bien, il faut être content, je n'ai pas le droit de me plaindre.
Donc, et puis en même temps, nous on en profite, de vos écrits comme de vos personnalités, chers amis. Merci encore Guy Bollet, merci Catherine Poulain,
merci à
Chalmani, merci aussi Amandine pour la régie, et puis restez bien à l'écoute de Fréquence Mistral. Demain à 11h, rendez-vous pour les correspondances. À bientôt.
Bonne journée.